L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va parler d'objets connectés, mais sachez que juste après, ce sera notre dossier d'atelier. On va évoquer le digital et la bande dessinée. Et puis, on découvrira le concept de Liberté Living Lab avec son concepteur tout à l'heure, et Aurore Géraud. Et puis, la rédaction de Zeronet.com, comme chaque semaine. Mais dans l'immédiat, avec Lila Megraoua et nos invités, on va faire le point sur les objets connectés. Alors, on en parle souvent dans l'atelier parce que forcément, dès qu'on évoque la high-tech, on peut pas passer à côté. Mais est-ce que ça va bien dans le monde des objets connectés, hein? Est-ce que tout le monde est en phase, des constructeurs, les utilisateurs, nous, consommateurs? On va essayer un petit peu de défricher le terrain cet après-midi.
Objets connectés, fabricants et distributeurs sont-ils bien en phase avec les attentes des consommateurs? C'est l'objet d'une étude d'Opinionware réalisée pour les Distri Connect Days, un salon des objets connectés. Alors pourquoi on en parle? Les projections, comme vous disiez François, quant au marché des objets connectés sont assez énorme. On a des chiffres absolument hallucinants, 200 milliards à horizon 2020 selon IDC, 80 milliards pour l'IDAT. Vous avez compris, les prédictions s'affolent un peu. Pour autant, la perception des consommateurs français n'est pas nécessairement en adéquation. C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités. Philippe Lemagresse, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Philippe Lemagresse, vous êtes directeur général adjoint d'Opinionway, et Laurent Salard, bonjour.
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 Laurence Allard, vous êtes sociologue de l'innovation, maître de conférence à l'IRCAF, Paris 3, Lille 3. Alors, comme je disais, Philippe Lemagresse, vous vous êtes interrogé notamment sur la perception des objets connectés par les Français. Alors, est-ce que vous pourriez nous en tracer un peu les grandes lignes?
Alors, déjà dans cette enquête, nous sommes intéressés à l'équipement actuel des Français en matière d'objets connectés. Et on est très loin des chiffres que vous avez évoqués à l'instant, qui sont des projections à quelques années. Concrètement, l'objet connecté le plus possédé aujourd'hui, c'est les caméras connectées, et on est autour
des caméras de surveillance.
Caméras de surveillance, d'accord. Exactement. Mm-hmm. Et on est à moins de 10% des individus qui sont équipés. Et c'est de loin l'objet connecté le plus diffusé.
Plus que le bracelet, par exemple.
Oui, le bracelet.
Voilà, qui est très médiatisé.
Alors effectivement, et ça c'est important, c'est que le marché des objets connectés a fait l'objet de, sans mauvais jeu de mots, de beaucoup de communication, en particulier de la marque à la pomme, autour du bracelet et de la montre.
Oui.
Et ça s'est traduit par un certain succès, mais quand même limité, puisque il y a un équipement de quelques pourcents.
Oui. Et puis Apple ne communique pas en plus sur ses chiffres de vente concernant l'Apple Watch.
Non.
Voilà, tout ça.
Effectivement, peut-être pas très flatteur de parler...
Peut-être pas.
Très précisément des données. Donc on voit bien que même par rapport à des objets relativement récents comme les tablettes, on est dans des taux d'équipement qui n'ont strictement rien à voir aujourd'hui. Donc il ne suffit pas de faire des projections, mais de mesurer aussi la réalité au jour le jour. Et c'est lié justement aux perceptions que les Français ont des objets connectés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux objets connectés. Dans l'étude, on a vu qu'ils consultent les sites internet, qui aussi beaucoup l'entourage autour des objets connectés pour en savoir un peu plus, ça a stimulé leur curiosité. Mais il y a encore un fossé important entre les perceptions autour de ces objets connectés et l'acquisition d'un objet connecté.
Alors, comment on pourrait expliquer cette méconnaissance, Philippe ?
Alors, c'est une méconnaissance, c'est-à-dire que j'irais plutôt que les Français ne se projettent pas dans un usage concret de ces objets connectés. Mmh. Il peut y avoir une image de produit un peu gadget, et la valeur d'usage n'est pas assez élevée à leurs yeux. Ce qui fait que dans un contexte actuel où les ménages font face à des tensions budgétaires importantes, pourquoi faire l'acquisition d'objets qui coûtent 50, 100, 200 ou plus euros si on n'en a pas un usage bien réel? Aujourd'hui, une des attentes essentielles des consommateurs, on le voit dans toutes les enquêtes que l'on mène, c'est d'acquérir des biens, des services qui offrent un vrai bon rapport qualité-prix. Or, aujourd'hui, et c'est pour ça que dans l'enquête, ils mettent ça en avant, le prix trop élevé. Il faut le mettre en regard de l'usage qui est projeté. Et cet usage, aujourd'hui, est trop faible à leurs yeux.
Laurent Salard, quel est votre regard de sociologue sur cette étude? Est-ce que les résultats vous ont surprise?
Non, ça corrobore ce qu'on peut observer dans une démarche qui est donc plus qualitative, de type ethnographique, ce type de sociologie que je développe. La question du faible taux d'adoption, puisqu'il y a 5-6% de trackers d'activité par exemple et de monde connecté pour l'instant, c'est pas simplement, bon, c'est bien sûr hein, une question de rapport usage-prix, mais c'est aussi que les scénarios d'usage qui sont proposés dans les objets connectés sont anxiogènes en fait pour les consommateurs, c'est-à-dire que non seulement ça coûte cher, mais en plus, ça leur crée plus de soucis que ça ne leur rend service, puisque il y a le premier souci qui a été manifesté par les sondés, qui est le souci de la dépendance, de l'addiction. Mmh. Et donc ça s'explique par le fait que les grands scénarios d'usage, notamment des montres connectées, des trackers d'activité, ce sont des usages qui consistent à capter des données personnelles, mais de plus en plus intimes en fait, au plus près de nos corps, puisque ce sont des données physiologiques qui sont captées. Donc on met en jeu le niveau somatique, hein, le rapport à notre corps. Mmh. Et donc forcément, on se pose des questions sur sa santé. Et aussi sur sa santé mentale. Donc ça brouille un peu justement la frontière entre le normal et le pathologique, puisque on est censé utiliser ces bracelets pour rester bien portant, mais en même temps on est en train tout le temps de se monitorer comme si on était malade. Donc ça c'est voilà, donc ça pose tout un enfin ça, voilà, ça peut être anxiogène. Mmh. Et puis ensuite le fait voilà d'être tout le temps en train finalement d'être en train de se regarder, de s'écouter, donc d'être tout le temps cette réflexivité, mmh. Finit par voilà nous poser beaucoup de questions sur nous-mêmes et peut-être des questions un peu inutiles, on se pose trop de questions mais sans qu'il y ait vraiment forcément de problème, etc.
Oui, j'allais
voilà,
dire, c'est
ça,
que
c'est le premier souci.
Ouais. Oui. Allez-y.
Et le second, c'est le souci justement de la sécurité de ces données personnelles qui sont captées, puisque 33% là vont craindre le risque par rapport à leurs données personnelles. Donc c'est ce qu'on appelle le souci de la privacy et de se demander finalement quel est le sort de ces données ainsi captées, quel est leur traitement, qui va les traiter, qui sont les acteurs économiques qui vont justement être les maîtres de ces données. Et donc là aussi c'est une valeur. Ça coûte très cher et puis ça crée voilà ce souci de la donnée personnelle, de la sécurité de ces données personnelles. Et donc voilà deux soucis plus un prix élevé. Donc ça pour l'instant c'est vrai que le marché des objets connectés se heurte un peu à des scénarios d'usage proposés qui sont privatistes, tournés vers les individus et datavores, c'est-à-dire qui leur capent leurs données. Et donc pour l'instant c'est vrai que c'est un peu un moment un peu ambivalent. Et ce que j'ai aussi remarqué dans le sondage, c'est que c'est ambivalent au sens où justement on estime que ces objets connectés sont privatistes et datavores, ouais. Mais en même temps, on souhaite les voir se développer dans le monde de la santé et on souhaite les voir se développer dans la question de la surveillance, dans le domaine de la surveillance, du foyer par exemple ou de l'intersurveillance. Donc, on a là un paradoxe assez connu dans le numérique, on appelle le paradoxe du pharmacon, c'est-à-dire que la technologie, elle est à la fois le poison et le remède. Voilà. Et donc, on est pour l'instant dans ce moment un peu voilà, d'ambivalence paradoxale.
Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une technologie qui n'est pas si prête que ça parce qu'on se rend compte qu'un objet est connecté, il faut le recharger tous les jours, qu'il faut le connecter à son smartphone, il faut lancer une application, que finalement, il faut être un peu geek pour apprécier tout ça. Est-ce que la technologie est prête finalement? Est-ce que finalement, il ne faut pas attendre encore quelques années avant que l'intégration en homme-machine soit plus efficiente?
Alors, il y a possiblement, effectivement, des produits qui sont pas encore à maturité, parce que souvent, ces produits-là...
C'est pour ça que la plupart du temps, ils terminent dans des tiroirs. Hein.
Et voilà, c'est le côté gadget, et on l'évoquait tout à l'heure, une des premières sources d'information pour les consommateurs, c'est le bouche à oreille, donc échanger à droite à gauche avec ses proches. Et il y a eu une image effectivement de produits un peu gadget, pas toujours fiable, et avec des données parfois un peu trop monotones. C'est certainement également, c'est un des écueils à mon sens, ou une des raisons pour lesquelles le marché ne se développe pas encore, c'est que les fabricants ne sont pas suffisamment en fait dans une démarche d'accompagnement, d'écoute, pas suffisamment tourné vers les besoins des consommateurs pour déterminer ce qu'on appelle, pardon, dans notre jargon, un insight, c'est-à-dire une tension pour le consommateur, un besoin qu'il a besoin, qu'il a une nécessité pour lui de faire face à ce besoin, qui va faire que pour y répondre, il va franchir le pas et acheter un produit, un service. Et là, aujourd'hui, on ne joue pas suffisamment sur des bons insights. On joue effectivement, comme le dit Laurence, peut-être sur des insights trop anxiogènes et pas suffisamment émotionnels, voire symboliques, qui sont des moteurs plus puissants.
Et pourtant, Apple joue beaucoup sur l'émotion. Alors, et ça fait partie un petit peu de leur stratégie marketing.
Ce qui explique qu'ils ont quand même fait un certain nombre de ventes.
C'est vrai. Hein,
par rapport, parce que on relativise, mais il s'est pas vendu trois montres et deux bracelets.
Oui, l'objet connecté le plus vendu, il vient sûrement de chez Apple. Ça c'est clair.
Qui a su jouer sur d'autres leviers plus émotionnels et évidemment pour cette marque des leviers symboliques.
Laurence Allard, vous dites, vous, qu'il peut y avoir des détournements d'usage. Est-ce que les fabricants peuvent être encore surpris par l'utilisation de leurs produits, du coup?
Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a déjà, oui, des détournements d'usage de la, notamment des applications liées aux montres connectées, ou alors les applications liées aux trackers d'activité. Ça, c'est la logique de l'usage en général qui passe toujours par justement une phase d'appropriabilité la plus singulière en fait. Et donc je dis toujours, voilà, les usagers, ce sont aussi des hackers, c'est-à-dire qu'ils vont réinventer un peu les prescriptions des fabricants, et puis qui vont vraiment faire leur en fait un service, une fonctionnalité, en la détournant, en la mettant vraiment à leur propre service. Et ce que je vois, par exemple, c'est des choses un peu étonnantes, c'est d'afficher, de screenshoter, donc de capturer l'application de podomètre et de réinventer un peu le tract en disant, regardez mes conditions de travail, et le poster sur Facebook, on est, regardez mes conditions de travail sont déplorables, regardez le nombre de pas que je fais entre mon domicile et mon travail. Donc voilà, ça c'est typiquement ce qu'on appelle les détournements. C'est aussi voilà, aujourd'hui on peut décrire son week-end, et ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire on peut décrire une promenade ou son lieu de travail en montrant en fait le nombre de pas que l'on a accompli pendant une promenade ou pendant justement sa journée de travail. Donc ça c'est ce sont des formes justement d'appropriation, ce qui montre que finalement ces données issues de ces différents capteurs de mouvement viennent aussi décrire des activités. Donc c'est ce que j'appelle la data conversationnelle, quoi. Ça commence à pouvoir être transformé en matériaux à partir duquel on peut aussi avoir des interactions et des expressions. Donc là on est dans des moments d'appropriabilité, et c'est là qu'est le cœur de l'usage. C'est quand
on peut
parler ces données et pas simplement craindre d'être parlé par un big data dont on ne sait pas qui les voyait.
Merci Laurence Allard, donc sociologue, et merci aussi à Philippe Le Magresse, donc DGA d'OpinionWay, qui a mené cette enquête passionnante. Merci à tous les deux. Merci. Lila, on revient dans un instant. La suite de cet atelier, ce sera notre dossier de l'atelier US, et puis le French Tech Tour aussi, comme chaque semaine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, avant de retrouver la rédaction de Zeronet.com dans quelques instants, le crash test d'Antoine. Avant aussi d'accueillir notre French Tech Tour de ce samedi, on va parler du Liberté Living Lab. Avant tout cela, direction les US avec le dossier de l'atelier US. Et en compagnie de Pauline Cantner, on va s'intéresser au digital et à la bande dessinée, Pauline.
Oui François, j'ai la chance d'être dans les bureaux de l'atelier à San Francisco, aux côtés de Laurel, qui est illustratrice de bande dessinée et de jeux vidéo. Ensemble aujourd'hui, on va parler des ponts qui se créent entre le format traditionnel de la bande dessinée qu'on connaît tous, qui est ce format papier, et le support digital. Laurel est en effet une des premières blogueuses de France dans le domaine de la bande dessinée. Son blog, qui s'appelle bloglaurel.com, a été lancé en 2003. Au-delà de ça, Laurel et son mari sont deux entrepreneurs dans l'âme, et on va découvrir ensemble leur histoire et le lien entre cette expérience entrepreneuriale et la bande dessinée. Laurel, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter et ensuite nous expliquer la raison de votre venue à San Francisco ?
Eh ben, merci beaucoup de me recevoir. J'ai fait un blog, mais c'était en 2003, donc c'était au tout début des blogs et même, surtout des blogs bande dessinée. Donc, dans le milieu, j'étais un peu lue, notamment par le rédacteur-chef de Spirou, qui m'a donné ma chance. J'ai commencé la bande dessinée comme ça. Et petit à petit, j'ai fait 13 albums environ pour la jeunesse et pour la BD franco-belge en France. À la suite d'un voyage en Californie avec mon mari, on a vraiment craqué sur la région et on s'est dit qu'on aimerait bien revenir. Donc on a monté une boîte de jeux vidéo, où, comme lui il est développeur et moi je faisais les dessins, donc c'était parfait. Et on a monté une boîte de jeux vidéo et on est venu s'installer ici il y a 3 ans, ici à San Francisco. Et malheureusement ça a pas marché la boîte, donc... On a rebondi et on a réussi à trouver du boulot dans une boîte de tech, dans le coin. Et aujourd'hui, on travaille tous les deux dans cette entreprise, qui est pas la nôtre, mais c'est pas grave, on prend vraiment du plaisir à travailler là.
Vous avez souhaité rassembler les planches que vous publiez quotidiennement sur votre blog en un projet dont on a entendu parler particulièrement puisqu'il a été accompagné d'une campagne Ulule qui a fonctionné comme pas possible. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet ?
Il y a un moment à la fin, vers la fin de la boîte justement, où j'ai commencé une bande dessinée sur mon blog inspirée de faits réels, où je racontais l'histoire d'un couple qui vient en Californie faire une boîte de jeux vidéo. Et en fait, je publiais une page par jour parce que j'ai toujours tenu mon blog. En fait, je le tiens quotidiennement depuis 13 ans, et c'était une façon de vraiment faire une histoire en ligne, etc. Parce que ma passion, c'est la BD. Et en fait, ça a été assez suivi. Donc, je publiais une planche par jour. Et le but, c'était de faire 500 pages au final. Et au moment où j'arrivais à 250, j'ai été contactée par des éditeurs qui m'ont proposé de le publier, en fait. Le truc, c'est qu'ils ont proposé vraiment très peu par rapport au travail que ça représentait. Enfin, pour les auteurs de bande dessinée, c'est de plus en plus dur en ce moment. Et je me voyais mal accepter ces conditions qui était vraiment pas viable, en fait. Donc j'ai préféré faire une campagne de financement participatif, et sans trop y croire, j'ai demandé 9000 euros pour financer l'autopublication du livre. Et en fait, les 9000 euros, je les ai obtenus en une heure, j'en revenais pas. Et au bout d'un mois, j'ai levé 270 000 euros. J'en revenais pas du tout, je m'y attendais pas.
Et qu'est-ce qui a motivé cette envie d'avoir, en plus du format digital, un format papier, un livre qu'on peut tenir dans les mains ?
Je pense que c'est dû à deux choses. Déjà, le fait d'avoir travaillé sur des jeux vidéo et de s'apercevoir que ce qui est virtuel, ça reste pas, malgré d'avoir passé autant de temps dessus. Enfin, j'ai toujours été attachée à l'objet livre papier. Enfin, je sais pas, j'ai grandi avec et ça restera toujours. C'est quelque chose qui est agréable à offrir. C'est, je sais pas, c'est l'objet. J'aime le papier.
Est-ce que aujourd'hui c'est plus facile de d'auto-publier ou d'auto-éditer un livre que ça l'était il y a quelques années ?
Je pense que grâce à Internet, c'est plus facile de publier, d'être en contact directement avec les imprimeurs, les distributeurs, etc. Plus facile qu'avant, mais c'est pas le plus difficile. En fait, l'avantage aujourd'hui de notre époque, c'est qu'il est possible d'atteindre directement les lecteurs grâce à Internet, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Avant, on dépendait complètement d'un éditeur, et aujourd'hui, c'est en train de changer.
Alors Laurel, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les prochaines étapes pour vous ?
Alors, idéalement, j'aimerais bien refaire un autre Ulule pour finir l'histoire, en fait, parce que là, c'était juste les 250 premières pages, et j'aimerais que ça fasse 500 au total. Donc idéalement, je pense qu'il y aura un tome 2 de Comme convenu. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de lire le début de l'histoire, qui est en cours, vous pouvez aller sur bloglaurel.com et il y a toutes les pages gratuitement qui sont en ligne, donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas, quoi.
Est-ce que être à San Francisco ou être au cœur de l'écosystème, ça nourrit votre inspiration, et est-ce que vous souhaiteriez rester ?
Il y a quelque chose qui est vraiment précieux ici, c'est tous les artistes qui travaillent pour Pixar, Disney, et c'est vraiment très 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 inspirant. Donc eux, ils ont tous des blogs et ils font des croquis, et c'est voilà. Puis les décors ici, les typographies sur les magasins, les lumières, les arbres, c'est magnifique. l'architecture de San Francisco avec les maisons, c'est complètement incroyable. Pour la qualité de vie, j'aimerais vraiment rester ici, je pense. Mais après, rien n'empêche de plus tard avoir peut-être envie de revenir en France. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ma place est plutôt là, dans la vallée.
Merci beaucoup, Laurel. Je rappelle que vous êtes une des premières blogueuses de France dans le domaine de la bande dessinée, que vous portez en vous la fibre entrepreneuriale puisque vous avez cofondé une start-up dans le domaine du jeu vidéo. Et bien que cette expérience ait été quelque peu malencontreuse, elle a su de manière formidable vous inspirer dans votre art. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps.
Bah, merci beaucoup à vous.
Pauline, merci. Et après Pauline Cantenor, c'est Aurore Géraud que nous accueillons pour notre French Tech Tour en compagnie de notre invité, Aurore, on va découvrir le Liberté Living Lab.
Oui, nous sommes en compagnie de Jérôme Ruchet, qui est donc cofondateur de Liberté. Alors, on va essayer de cacher le Living Lab. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui se cache derrière ce nom un peu mystérieux? Je crois que vous le définissez comme un espace d'hybridation entre social et business. Qu'est-ce qu'on entend par ça?
Alors déjà, on entend un lieu physique, ce qui à l'époque du digital et pas un petit Paris. On entend 2000 mètres carrés, on entend 200 résidents français et internationaux, 25% d'internationaux. On n'entend pas du coworking, on n'entend pas un incubateur, on entend une double envie, l'envie de réunir des gens et des entrepreneurs visionnaires qui sont en train d'inventer dans leur thématique. Un exemple, Paul Doane avec Base Impact, data scientist qui vient de créer une start-up ONG aux États-Unis et qui est arrivé en France il y a quelques semaines pour essayer de s'attaquer à la question du chômage et de la gestion des données dans le chômage. Est-ce qu'on a là une source d'amélioration du sujet? Un autre exemple, Julie de Pimodon, Fluicity, ex-journaliste au moment du printemps arabe, dans l'équipe de Google en Turquie et qui a créé une start-up dans la civic tech, hein, les types de start-up qui vont essayer d'améliorer la démocratie, ou en tout cas la participation, et qui a créé une start-up qui s'appelle Fluicity et qui vise à renforcer la participation citoyenne à la prise de décision pour l'instant à l'échelle des collectivités territoriales. Donc on entend un lieu physique, un lieu pluridisciplinaire, un lieu multiculturel, 25% d'internationaux, c'est un enjeu énorme pour nous à l'ouverture. Et on entend aussi un lieu intergénérationnel. En clair, on a 6 types de résidents dans ce Paris entrepreneurial, des start-up, des grandes entreprises. On a des équipes pluridisciplinaires du type chercheurs, étudiants, artistes. On a des médias, parce que la réflexion en matière d'innovation des médias aujourd'hui est absolument passionnante. On a également des équipes de mission de service public, parce qu'un pari comme ça qui est finalement sur des équilibres entre entrepreneuriat privé et bien public et projet de bien commun ne serait pas complet si on n'avait pas ce type d'équipe-là. On est en train de discuter notamment avec les équipes d'Axel Lemaire. Et également, dernière catégorie intergénérationnelle, là pour le coup, des adolescents.
Oui, enfants, vous avez mis en avant. Je me demandais où ils s'intègrent dans ce.
Ils s'intègrent dans plein d'endroits. En fait, ce qu'on est en train de créer, si on le dit de manière encore plus simple, c'est un lieu de travail et d'innovation. Et nous, nos convictions, c'est qu'un lieu de travail aujourd'hui, ça devrait être un lieu où il y a la place pour des adolescents, notamment, et les enfants. On va avoir 10% des 200 résidents qui seront des adolescents. Et là, on a plein de convictions et d'intuitions derrière ça. La première, c'est que quand on a aujourd'hui entre 11 et 18 ans, on a plein de choses à dire et il n'est pas trop tôt pour les écouter. La deuxième, c'est qu'il est en train de se passer dans le secteur de l'edutech, des start-up dans l'éducation et au-delà de ça, dans les nouvelles pédagogies, des choses absolument incroyables qui sont un peu comme la réflexion innovation des médias aujourd'hui, totalement inspirante sur un plan beaucoup plus large. Et puis, la troisième conviction aussi, c'est que à l'inverse, on a la chance de voir dans le monde professionnel, entrepreneurial, start-up ou grand groupe, des personnes et des idées et des projets absolument merveilleux et on se dit mais il faut que ça arrive plus vite auprès des jeunes, des enfants et des adolescents et c'est aussi le pari qu'on fait. Donc 2000 mètres carrés, 200 résidents français et internationaux, un Fab Lab pour enfants, un atelier d'intelligence artificielle avec l'idée aussi qu'un lieu de travail aujourd'hui c'est pas simplement une pièce fermée, une table, une chaise, là on n'invente rien, c'est plus l'idée que les uns et les autres on travaille avec des personnes différentes au fur et à mesure de la journée sur des sujets différents.
Des espaces de réflexion.
Des espaces créatifs, on doit pouvoir travailler seul dans le silence ou à l'inverse être dans le flux, dans la vie. Le lieu va être ouvert 24 heures sur 24 aux résidents et 7 jours sur 7 au grand public avec un restaurant. C'est un pari un peu fou finalement.
Un lieu de vie Mais plus que ça, en fait.
Un lieu de vie et plus que ça. Mmh. On assume maintenant l'idée aussi d'avoir un lieu d'excellence où on peut réunir des gens, des entrepreneurs visionnaires. Dans des projets multiculturels et pluridisciplinaires, et avec l'idée de voir ce que tout ça va donner finalement.
Et du coup, qu'est-ce que vous définissez comme Civic Tech ?
Alors Civic Tech, on a dès aujourd'hui plusieurs résidents. Le lieu ouvre là, on est très en avance de phase. Mm-hmm. Il a pré-ouvert tout début avril. On est en mode chantier. On est sur 7 étages. Il ouvre complètement au mois d'octobre 2016.
D'accord.
Donc Civic Tech, on a par exemple la primaire.org qui nous a rejoint. Mm-hmm. On a Fluicity, donc ce dont on parlait tout à l'heure. On a après des social tech aussi, comme Base Impact, comme Hello Asso. Hello Asso, magnifique initiative française. Mm-hmm. Première plateforme de crowdfunding associatif sur un modèle économique qui est tout simplement incroyable. Mm-hmm. Ils ont tout basé sur le pourboire. Et l'équipe d'Hello Asso, Léa Thomasin, Ismaël Lemoel, ils ont collecté pour les associations françaises 18 millions d'euros l'année dernière. Ils sont sur un trend à 30 millions d'euros cette année. Et ils disent simplement aux gens qui participent, bah, si vous pensez que ça vaut le coup, laissez-nous un peu de sous pour qu'on continue cette aventure-là. Mmh. Et ils viennent de lancer Hello Academy. On a quand même un vrai sujet. Les associations en France, c'est un acteur clé, notamment dans le lien social. Comment on fait passer cet acteur-là, on connaît un peu sa sociologie, à l'ère du digital, comment on les perd pas en cours de route? Et la Hello Asso Academy va les aider de manière bénévole à passer dans l'ère du digital.
Eh bien, super. Bravo.
Merci beaucoup
pour cette initiative.
Bon courage, surtout.
Ouais, ça va être génial.
Très bien, donc Aurore, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cet atelier. Direction la rédaction de zeronet.com dans un instant, et puis juste après ce sera le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite et merci d'être là comme chaque samedi.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, avant de retrouver le crash test d'Antoine. Et bien, nous accueillons, comme chaque samedi, avec beaucoup de plaisir, Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com. Salut Éric.
Bonjour.
Éric Le Bourlou, avec qui on va s'intéresser à toute l'actualité high-tech que vous avez pu lire cette semaine sur Zeronet.com. Et on va commencer par Facebook, qui donc a, lors de son événement F8...
Oui.
C'est comme ça qu'on dit F8.
F8, ouais. F8,
ouais, voilà, puisque bon, ils sont américains, donc voilà, on va s'adapter. A présenté pas mal de nouveautés. Alors certaines, on les connaissait déjà,
ouais. Hein.
Mais malgré tout, on va y revenir parce que bon, Facebook fait partie de notre quotidien pour la plupart, ouais, d'entre nous, et donc annoncé pas mal de choses.
A annoncé pas mal de choses. Alors il fait partie de notre quotidien. Facebook, et son ambition, c'est d'en faire encore plus partie, évidemment. Et alors la première chose qu'ils ont annoncé, et ça, c'est, on en avait déjà parlé ici, mais ça y est, c'est officiel, c'est lancé. Et ça marche, ça commence à marcher, il y en a déjà plusieurs, ce sont ces fameux bots, ces petits robots logiciels que vous allez pouvoir ajouter à votre Facebook Messenger, donc vous allez avoir de nouveaux amis qui ne sont pas humains mais qui sont des machines, et que vous ajoutez comme si vous ajoutiez un ami en fait, hein, en passant par la page Facebook de l'entreprise qui commercialise,
d'accord,
ce bot. Et qui vous permettent d'avoir différentes informations. Alors pour l'instant c'est assez sommaire. Alors il y en a déjà quelques-uns qui ont été lancés, notamment des médias américains comme CNN ou le Wall Street Journal. Et ce que ça vous permet de faire, c'est par exemple dans le cas de CNN, vous contactez ce bot et puis ensuite il va vous envoyer quelques informations, un peu comme des pushs que vous recevez sur votre mobile. Mmh. Ou alors, vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez lui dire, je voudrais avoir des informations sur Obama, par exemple. Et il va vous fournir par chat, comme si vous discutiez avec lui, des informations sur Barack Obama. Et c'est des dernières actualités de Barack Obama. C'est le même principe pour le Wall Street Journal. Vous pouvez demander, par exemple, à avoir une cotation boursière d'une entreprise. Et hop, le bot vous fournit directement dans Messenger, voire par un lien ensuite, la cotation de l'entreprise, quelle est la valeur de son action, etc.
Oui, donc ça permet d'avoir de l'information ciblée en posant une question, en fait.
Exactement.
C'est ça.
Et aussi, ces bots-là vous poussent de l'information. C'est ça qui est intéressant aussi pour les gens qui sont partenaires. C'est-à-dire que ce n'est pas que d'un côté actif pour l'utilisateur. Il y a aussi les médias, les partenaires de Facebook dans cette entreprise, ben, peuvent envoyer des informations automatiquement aux gens sur Messenger. Et on sait qu'ils sont très nombreux. Donc, c'est assez intéressant aussi de leur point de vue. Il y a aussi des bots commerciaux. Par exemple, il y a un bot qui vous permet de commander des fleurs très facilement par chat. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été lancés. On a essayer quelques-uns, on a fait un article là-dessus.
C'est déjà disponible via l'appli Facebook.
Simplement, en fait, pour les ajouter, il faut que vous alliez sur la page Facebook du média ou de l'entreprise qui le propose, et que vous fassiez contacter cette entreprise. Et là, en fait, vous allez tout de suite être abonné à ce
D'accord,
bot.
D'accord, à ce bot.
Alors méfiance quand même, parce que du coup les bots après ils ont tendance un peu à vous spammer, c'est-à-dire que ils vous arrêtent pas de vous envoyer des choses. Alors
ils sont
mal polis. Ils sont assez mal polis, ouais. Et puis il est difficile de les bloquer en plus. Il est très difficile de les supprimer une fois qu'on les a ajoutés. Donc c'est vrai que ça peut vite un petit peu devenir énervant. Donc allez-y mollo si vous voulez tenter l'aventure.
Voilà, ne vous abonnez pas à 10 bots en même temps parce
non,
que vous
pas pour l'instant,
risquez
ouais.
de le regretter. Alors là, bon, ces petits robots qui, on l'a compris, veulent envahir Facebook et se généraliser pour plein de services. Hein.
Exactement.
Il y avait autre chose aussi. Facebook oui. a beaucoup parlé de réalité virtuelle.
Exactement. Ça a été un des gros points de cette conférence. Facebook a déjà présenté une énorme caméra pour la réalité virtuelle, une caméra qui a une particularité, donc qui filme à 360 degrés et qui permet ensuite de porter tous ces contenus qu'on a créés avec pour les casques de réalité virtuelle, notamment celui de Facebook, hein, l'Oculus Rift. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a open sourcé le design de cette caméra, c'est-à-dire qu'en gros ils ont dit à tout le monde, vous voulez faire la même, n'importe
allez-y,
qui, allez-y,
vous avez le droit, vous pouvez.
Vous pouvez faire la même caméra que nous. Alors évidemment, ça intéresse Facebook, parce que plus il y aura de gens qui fabriqueront des caméras, plus il y aura de contenu et plus les gens seront intéressés par le casque Oculus Rift.
Bon, c'est une caméra qui coûte cher quand même.
Oui,
hein.
C'est une caméra qui coûte très cher, ce n'est pas évidemment pour le grand public, mais le fait de vouloir standardiser un design de caméra, c'est assez intéressant. Mais ils ont pas présenté qu'une caméra, ils ont aussi montré un petit peu ce qu'ils avaient en tête pour la réalité virtuelle dans Facebook. C'est vrai qu'on pouvait se demander à la base pourquoi Facebook, qu'est-ce que Facebook venait bien faire dans la réalité virtuelle, quel était l'intérêt de l'entreprise de Zuckerberg qui a acheté, on rappelle, Oculus sur un coup de tête, hein, presque en un week-end il a acheté ça.
Il a les moyens, c'est ça qui est cool.
Il a les moyens, voilà. Il a payé un petit milliard comme
allez,
ça.
Voilà, hop là.
Voilà. Donc et effectivement ils ont montré donc ce qu'on pourrait faire demain dans Facebook, pourquoi pas avec la réalité virtuelle. Et mine de rien, c'est assez intéressant. Ils ont montré par exemple une démonstration qui nous a tous bluffés, qui consistait à avoir deux amis séparés par 50 km de distance, hein, ou 100 km, ou même à l'autre bout de la planète, qui en fait étaient réunis chacun avec leur casque par le biais d'avatars dans une scène virtuelle. Donc avec les manettes de l'Oculus, ils pouvaient se taper dans les mains, jouer ensemble. On peut par exemple se lancer des choses, on peut communiquer, écrire sur un même tableau. On peut voir même dans cette démo, que je vous conseille vraiment d'aller voir sur Zero1Net notamment, on peut même par exemple se projeter dans des univers virtuels. Alors, pourquoi pas des contenus générés par la caméra dont on parlait tout à l'heure.
D'accord.
Mais aussi par exemple
dans des villes particulières, on choisit ce qu'on veut.
Et puis en quelques secondes on se retrouve projeté dans Paris ou dans Londres.
C'est-à-dire qu'on pourrait rencontrer ses amis sur Facebook de manière virtuelle.
Exactement, discuter avec eux
grâce à ce masque de réalité virtuelle.
Exactement.
C'est
assez bluffant, et ça c'est vraiment la vision de Facebook de la réalité virtuelle.
On comprend mieux pourquoi maintenant Zuckerberg a voulu racheter Oculus.
Voilà, donc là pour eux ils ont à peine parlé de jeu, même pas parlé de jeu en fait, ils ont parlé de socialiser dans l'espace virtuel et dans des Alors ça peut paraître un petit peu barré pour l'instant, mais en fait ça va arriver très vite. On sait que l'Oculus est déjà sorti et que ces manettes là, ces fameuses manettes qui vous permettent d'interagir avec le monde virtuel vont arriver très bientôt.
On va parler de réalité virtuelle d'ailleurs dans un instant avec HTC, mais auparavant évoquer Netflix. Netflix y avait choisi la France pour organiser une énorme conférence de presse d'envergure mondiale. Hein. Il y avait énormément de people, énormément de comédiens,
tout à fait,
séries stars hein, de Netflix qui étaient là.
Exactement. Et il y avait le patron de Netflix, hein, Reed Hastings aussi qui était là. Et ils ont annoncé beaucoup de choses de quoi pas traiter ici. C'est pas vraiment techno, mais par contre ils ont évoqué un sujet aussi qui leur tient beaucoup à cœur et qui peut embêter les clients de Netflix, enfin en tout cas certains. Netflix a mis carrément la pression récemment sur ces fameux services de VPN ou de proxy qui permettaient en fait d'accéder à des Netflix d'autres pays. Donc c'est vrai que vous pouviez assez facilement, jusqu'à une période récente, utiliser une autre version de Netflix pour profiter des contenus qui n'étaient pas disponibles chez vous, mais aux États-Unis ou en Scandinavie.
Et parce que rappelons que les contenus de Netflix sont localisés par pays.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir tel film, mais vous allez aux États-Unis, par exemple, vous ne l'aurez pas, mais vous aurez d'autres films disponibles, peut-être même plus récents,
hein,
puisque nous, on a une chronologie des médias qui est complètement différente des autres pays.
Exactement. Et on a un catalogue bien moins fourni aussi que celui des États-Unis.
Il est très facile de switcher d'un pays à un autre avec un VPN.
Exactement. Sauf que ça, c'est fini. C'est son directeur technique, hein, qui l'a dit directement. Voilà. Netflix avait déjà déclaré la guerre au VPN, on l'avait dit. Voilà. Pour l'instant, il n'y avait pas
on
eu de grosse différence.
On signe la fin de la récré.
Et là, c'est la fin de la récré, effectivement. Maintenant, on l'a testé, on l'a essayé. La plupart des VPN ne fonctionnent plus avec Netflix. Et on a de gros problèmes désormais si on veut utiliser un Netflix d'un autre pays. Donc voilà, ça signe un petit peu un changement chez Netflix. Ouais.
C'est d'autant plus embêtant quand, par exemple, on est abonné au Netflix français, on est aux États-Unis et on a envie de poursuivre ses séries préférées. Eh bien, on peut pas les voir parce qu'on est... Comme on est aux États-Unis, eh bien, on est obligé d'avoir le contenu américain. Et c'est surtout la barrière de la langue aussi qui pose problème.
Exactement,
vous ne retrouverez pas le contenu en français. Là, dans ce sens-là, c'est peut-être un petit peu plus embêtant.
Tout à fait.
Netflix qui, mine de rien aussi, a vu son catalogue. Alors, évidemment, grossir de production, on va dire maison.
Exactement.
Hein, avec des productions toujours assez haut de gamme et pour la plupart très intéressantes.
Dont Marseille qui va arriver bientôt.
Dont Marseille, hein, avec Depardieu et Benoît Magimel. Mais parallèlement, il y a moins de contenu sur Netflix.
Oui, il y a moins de contenu, on va dire, le nombre total de contenu sur Netflix est en train un petit peu de baisser. Et même de baisser de façon assez significative au fil des mois. Tout simplement parce qu'il y a des contrats avec certains détenteurs de droits qui ne sont pas repris, qui sont qui s'achèvent.
Oui. Voilà. Et donc le contenu est obligé de disparaître.
Et le contenu
de la
disparaît.
Plateforme.
Alors il y a toujours des films qui apparaissent, qui disparaissent sur Netflix en permanence, mais en fait la tendance est plutôt à la baisse générale de contenu. Et effectivement Netflix fait en sorte de privilégier plutôt ses productions originales plutôt que les contenus qu'il récupère d'autres, parce que ça c'est plus intéressant pour lui à plusieurs titres. Et effectivement il y a moins de contenu désormais, on va dire, de seconde main sur Netflix qu'avant.
On va parler maintenant donc du HTC Vive. On va revenir à la réalité virtuelle parce que ça a été l'un des coups de cœur de 01net.com.
Ouais, ouais.
D'ailleurs cette semaine, avec évidemment beaucoup d'articles qui décrivent un petit peu le fonctionnement de ce masque, et puis des vidéos entières qui vous attendent aussi sur 01net TV, avec notamment une émission de près de 3/4 d'heure où on vous explique comment fonctionne ce masque qui est quand même assez bluffant.
Ouais.
C'est votre coup de cœur de ce mois d'avril, hein, à la rédaction.
Oui, on peut même dire de l'année. Là,
de l'année. Alors allons-y.
Ouais, c'est vraiment un produit assez exceptionnel qui coûte très cher, hein, on va le dire, voilà, ça coûte 900 €, c'est pas pour tout le monde.
Il faut un PC puissant derrière, etc.
C'est un produit qui est vraiment assez exceptionnel. On est tous à la rédaction assez unanimes là-dessus. On a tous été bluffés.
J'ai jamais vu autant de journalistes à la rédaction le week-end, par exemple.
C'est vrai qu'il y a eu, et même d'autres gens de la rédaction.
Oui,
on l'a fait essayer à peu près à tout le monde chez Next. Hein. Mais en tout cas, ça montre qu'effectivement le produit intrigue et il est pas décevant. C'est-à-dire que ce qui est génial avec ce produit, on parlait tout à l'heure de l'Oculus Rift qui est lui aussi sorti, hein, mais il a une grosse différence pour l'instant, c'est que les manettes dont nous parlions de l'Oculus Rift ne sont pas disponibles sur le HTC Vive. Vous avez des manettes qui sont juste exceptionnelles avec, donc vous mettez un casque et puis vous avez des manettes qui sont reconnues dans votre environnement, ce qui fait que vous avez l'impression que dans votre environnement virtuel vous avez une extension de vos mains que vous pouvez avec lesquelles vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est donc déjà le casque en lui-même est très bien conçu et les expériences qu'il propose sont plutôt géniales, les premières expériences qu'il propose, plein de jeux marrants, etc. Mais en plus vous avez on voit vite qu'il y a un potentiel assez énorme dans ces nouvelles interfaces gestuelles qui sont rendues possibles en fait par ces manettes qui sont traquées dans l'espace, donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre pièce, vous pouvez prendre un objet, le jeter, interagir avec l'environnement. C'est assez exceptionnel.
Moi-même détruit un bureau virtuel.
Oui, c'était assez exceptionnel aussi.
Enfin voilà, c'est à découvrir. On vous invite à aller sur 01net.com et 01net TV pour découvrir donc ce masque de réalité virtuelle HTC Vive qui est le coup de cœur de la rédaction.
Ouais.
Pour l'instant, pour cette année 2016, alors évidemment, il faut compter 2 000 € à peu près, hein, si vous voulez, le masque plus l'ordinateur, le PC qu'il faut.
C'est pas effectivement simple, c'est encore un peu cher. Ouais.
Voilà, mais les prix, on le sait, vont baisser forcément.
Ouais.
Merci beaucoup Eric Le Bourlou, rédacteur en chef donc de 01net.com. Vous restez avec nous, on va terminer cet atelier numérique dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antoine Cyr, comme chaque semaine bien sûr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine. Dans un instant, mon cher Antoine, on va parler de quoi dans quelques secondes?
On va parler d'Artocarpus altilis.
Ah, mais bien sûr.
Voilà.
Mais franchement, parfois, attendez, on va en parler dans un instant, mais ça tombait sous le sens.
Voilà,
cette histoire-là.
Tombait sous le sens. Alors, il est plus connu quand même sous le nom d'arbre à pain.
Ah, très bien. Voilà, ça sera dans un instant le crash test d'Antoine, mais auparavant, c'est le décryptage high-tech de cette semaine avec Guillaume de Groise de l'atelier, Guillaume.
Cette semaine, j'avais envie de vous parler de Berlin et de son incroyable attractivité.
Nos auditeurs qui connaissent un peu la ville et son histoire s'attendent peut-être à ce que je parle de la scène culturelle underground berlinoise. Eh bien non, c'est bien de start-up dont je vais vous parler aujourd'hui. Car Berlin est devenu la nouvelle Silicon Valley allemande. Pendant de nombreuses années, c'est plutôt la région de Munich et la Bavière qui engrangeaient des investissements massifs et voyaient des start-up se créer par dizaines. Depuis 2013, c'est Berlin qui fait la course en tête et d'après une étude publiée par EY en janvier dernier, la capitale est loin devant ses anciennes rivales. Alors, les investissements dans les start-up berlinoises atteignent 2,1 milliards d'euros en 2015, soit 70% du capital risque investi sur le territoire allemand, ce qui laisse la Bavière ou la région de Hambourg loin derrière avec 300 millions chacune. Alors comment expliquer qu'en 10 ans, la capitale allemande soit passée de capitale des clubbeurs européens à ce très attractif bac à sable pour start-upers ? Comme souvent dans l'émergence d'un écosystème, c'est une conjugaison de plusieurs facteurs qui crée un terrain propice à l'innovation. Premièrement, la démographie. Berlin est une ville jeune et une ville où la natalité, plutôt déprimée en Allemagne, reste forte. Deuxièmement, les universités berlinoises comme la Freie Universität de Berlin ou la Humboldt-Universität zu Berlin forment des jeunes diplômés reconnus et attirent les étudiants de toute l'Europe car leurs cours sont dispensés en anglais depuis des années. Environ 200 000 étudiants font leurs études à Berlin tous les ans. Troisièmement, la capitale allemande, même depuis la réunification, n'a jamais été la capitale économique du pays. Donc les loyers restent très accessibles, parmi les moins chers des capitales européennes. Les grandes entreprises ne recrutent pas les jeunes diplômés brillants à tour de bras et la culture entrepreneuriale peut se développer sans peine puisqu'il n'y a pas de verrouillage de l'innovation par cet établissement des affaires ou de l'industrie qui se trouve plus loin à l'ouest. Enfin, dès 2011, les pouvoirs publics au travers de Berlin Partner font le choix de promouvoir en priorité le secteur de la high-tech et des start-up auprès des investisseurs privés. Et ça paye. 500 start-up se créent tous les ans à Berlin et avec 2,1 milliards d'investissements, la capitale allemande passe en 2015 à la première place européenne devant Londres qui n'engrange que 1,7 milliard. Cet écosystème berlinois repose aussi sur la réussite de quelques très beaux projets comme Rocket Internet, lancé en 2007 et qui se veut la première plateforme Internet en dehors de la Chine et des États-Unis. Alors, première plateforme Internet en Europe et en Afrique ou en Amérique du Sud, Rocket Internet dont seule une poignée d'initiés comme nos auditeurs connaît le nom, sans doute parce qu'en fait, Rocket Internet, ce sont trois frères qui, en 2007, décident de copier des business models de pure players du web pour se les approprier. Leur premier succès s'appelle Zalando, qui réalise désormais 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais d'autres ont suivi comme Delivery Hero ou Foodora ou encore eDarling. Alors forcément, avec une locomotive comme celle-là, d'autres se lancent, comme Number 26, une start-up fintech de banque en ligne, ou encore GoButler, une start-up d'intelligence artificielle qui a levé 8 millions d'euros. On peut aussi citer IM, un site de partage de photos pour les professionnels qui, il y a tout juste un an, annonçait avoir bouclé un tour de table de 18 millions. Alors, les grandes entreprises de tech mondiales ne s'y sont pas trompées non plus, car si on peut tout à fait comprendre que Lufthansa sponsorise un lab à Berlin, les Américains Cisco, IBM ou Microsoft ont eux aussi décidé d'ouvrir leur propre structure de co-innovation, et le CES européen, l'IFA, qui se déroule à Berlin au mois de septembre, enregistre désormais plus de 250 000 visiteurs. Alors, la Silicon Valley allemande, cette Silicon Alley, comme disent les Allemands, la région de Berlin pourra-t-elle supplanter réellement Londres comme cœur de l'innovation européenne ? C'est tout à fait possible, mais il reste néanmoins un obstacle à dépasser qui est celui du financement des start-up early stage, celui des business angels qui peuvent investir des tickets en dessous de 5 millions avant que les grands fonds internationaux ne prennent le relais. Pour l'instant, cette brique pourtant très nécessaire à la martingale d'un écosystème de start-up fait encore défaut à la Silicon Valley berlinoise.
Guillaume, merci et place donc au crash test d'Antoine Cyr pour terminer cet atelier. Antoine, cette semaine donc, nous allons parler de l'arbre à pain, c'est le point de départ de ce crash test.
Eh oui, nous allons parler de l'arbre à pain qui est le point de départ de ce crash test.
Parfait.
Bon, alors l'arbre à pain, il a un petit nom hein, qui est l'Artocarpus altilis. C'est un arbre de la famille des Moracées, originaire d'Océanie, et il est connu pour son fruit comestible et aujourd'hui largement répandu sous les tropiques. Alors figurez-vous que l'arbre à pain a un fruit.
Et donc, mais il n'est pas un pain.
Eh ben, ça se discute.
Ah bon?
Le fruit c'est de l'arbre à pain, c'est le fruit à pain.
Le fruit à pain.
Voilà. Et alors, on va y revenir.
Ça s'écrit P-A-I-N,
P-A-I-N
ou P-I-N?
P-A-I-N, P-A-I-N.
D'accord.
On va y revenir dans quelques instants.
Voilà.
Parce qu'il y a, pas mal sur le web, en vous promenant. Vous allez trouver pas mal de recettes qui permettent de cuisiner le fruit à pain. Donc, le fruit de l'arbre à pain.
Tiens.
On va y venir dans quelques instants. Alors, d'abord, quand même, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un fruit et un arbre océanien, devenu, un arbre tropical. Donc, son petit nom dans les langues tropicales n'est pas forcément arbre à pain. En effet, il est appelé ourou dans la majorité des langues polynésiennes.
Ourou.
Ourou. Voilà. D'accord. Alors, je sais pas si j'ai mis le bon accent tonique,
oui,
hein.
Voilà.
Il est appelé le fouille à peine en créole martiniquais ou je crois fuille à peine en guadeloupéen, vouriapine en comorien, momboya en lingala, et l'âme véritable, qui est vous voyez bien, une contraction de arbre véritable en créole haïtien. Je trouve que ce l'âme véritable, c'est absolument bien, et ça, c'est vous trouvez évidemment des expressions dans ces différentes langues un peu partout sur le web. Donc, l'arbre à pain, on se l'est dit tout à l'heure, est originaire d'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Il y a été domestiqué là-bas, hein, c'est devenu un arbre qu'on cultive, et il fournit une source de glucides importante depuis des millénaires. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, et j'y reviendrai dans quelques instants, il a été introduit aux Antilles à la fin du XVIIIe siècle, et vous allez voir, il y a été introduit dans des conditions qui sont très intéressantes.
D'accord.
Et aujourd'hui, il est répandu dans toutes les régions tropicales humides, où on l'utilise à la fois pour son intérêt alimentaire et pour son intérêt
esthétique. On en voit pas beaucoup à Paris,
esthétique.
Hein, Antoine.
Alors non, il faut, pour cultiver l'arbre à pain, il faut une plaine tropicale chaude et humide.
D'accord.
Alors humide.
Voilà. Paris, on est bien.
Paris, c'est pas exactement une plaine, mais enfin c'est une petite.
On pourrait s'en contenter.
On pourrait s'en contenter, ça irait.
Ouais.
Humide. Ça
c'est bon.
Ça c'est
deuxième
bon.
Pouce.
On coche la case.
Ouais.
Mais chaude, peut-être quelques jours par an, oui, mais voilà. Alors. Il y a des recettes de cuisine, hein, sur le web avec l'arbre à pain. Donc, par exemple, l'ourou au feu de bois. D'ailleurs, au passage, aux Antilles, vous savez, les fleurs aussi de l'arbre à pain qui sont consommées. Alors, elles s'appellent, en Martinique, elles s'appellent totote, et en Guadeloupe, elles s'appellent popote. Et donc, elles sont utilisées en confiture, notamment.
Confiture de fleurs d'arbre à pain.
Voilà, tout à fait. Alors, donc, l'ourou, donc le fameux fruit de l'arbre à pain, par exemple, cuit au feu de bois. Donc, il faut le cueillir à un moment particulier, celui où des traces de sève blanche apparaissent sur sa peau verte. Il faut retirer la queue, il faut laisser reposer une nuit pour se vider de sa sève.
Oui.
Ensuite, il faut faire des petits croisillons avec un couteau, parce que sinon il risque d'éclater pendant la cuisson.
Ah, ça, c'est embêtant.
Voilà. Ensuite, il faut le déposer sur un feu de bois, le faire cuire pendant environ 30 minutes de chaque côté.
Ah, oui.
Il faut penser à le retourner de temps en temps. Et puis là, il faut le retirer du feu. Sa peau est devenue une espèce de charbon, et donc vous allez éplucher la peau. Et là, ça révèle donc la chair cuite de l'arbre à pain. Et ensuite, vous pouvez même découper les tranches de l'ourou pour les frire dans l'huile, et elles vont être à ce moment-là consommées en frites. Ce sont donc les célèbres frites d'ourou.
Oui, bien sûr. Que nous mangeons au quotidien.
Que nous mangeons quotidiennement.
Voilà.
Alors, on disait que l'arbre à pain est présent aux Antilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, figurez-vous que en 1789, année magnifique et révolutionnaire
et
pour
oui.
ce qui nous concerne, il s'est passé un événement qui, lui, n'avait rien de révolutionnaire. Les Britanniques se sont rendus compte qu'en effet cet arbre à pain poussait comme des petits pains et qu'il permettait de nourrir pas cher les populations.
Ah
et
oui.
notamment les populations qu'on avait envie de nourrir à pas cher du tout, c'était les populations d'esclaves. Et donc l'idée des Anglais a été de transporter des arbres à pain massivement dans
D'accord.
les Antilles en se
pour
disant
nourrir les
pour
esclaves.
Nourrir les esclaves, en se disant on n'aura pas à se fatiguer pour nourrir les esclaves puisque
Les
pins pousseront sur les arbres à pain. Voilà l'histoire. Et alors, l'histoire incroyable, c'est qu'il y a un bateau qui a été chargé de transporter les arbres à pin de l'Océanie aux Antilles.
Oui.
Et ce bateau s'appelait le Bounty.
Le Bounty?
Et le non. fameux Bounty sur lequel il y a cette célèbre mutinerie
oui.
qui a donné lieu à je sais
au
pas,
révolté
quatre,
du Bounty.
Au révolté du Bounty qui a donné 4 ou 5 films à ouais. toutes les époques en noir et blanc, en couleur, en Dolby et tutti quanti. Eh bien, c'est en fait la mission du Bounty était à l'origine d'apporter
de rapatrier les arbres à pain.
Exactement. Il avait été acheté par alors ce qui était amusant c'est que le naturaliste qui avait découvert les vertus de l'arbre à pain s'appelait Joseph Banks et faisait partie, lui, de l'expédition avec du capitaine Cook. Et donc, lors de l'expédition du capitaine Cook, il s'était rendu compte de ça et l'amirauté britannique avait acheté le Bounty exprès pour aller faire donc cette fameuse transplantation des arbres à pin. Donc voilà, ça avait été une véritable expédition. Alors justement, les Anglais, tant qu'on y est, et comment appellent-ils l'arbre à pain? Eh ben, en fait, eux, ils appellent ça le breadfruit, le fruit du pain.
Ouais,
voilà.
Ce qui est
donc
pas
c'est
mal,
un
hein.
breadfruit, voilà, c'est pas mal. Et alors, si vous regardez sur le web, eh bien, vous allez trouver, notamment la société britannique de géographie, qui vous donne pas mal d'indications. Vous avez des jardins tropicaux où on peut vous trouver des arbres à pin. Très beaux, d'ailleurs, on est vraiment dans les tropiques avec l'arbre à pin. Vous avez une vidéo que vous trouvez sur YouTube aussi, qui est la vidéo d'un lunch de taille d'un lunch tahitien avec des breadfruit, donc des fruits de l'arbre à pin. Et puis, vous avez des recettes de cuisine. Donc, en somme, voilà, vous voyez que vraiment, l'arbre à pin, c'est sérieux, c'est pas pour les pimpins. Voilà, vous avez aussi...
Vous êtes fier de celle-là.
Oui, très fier. Ouais. J'ai trouvé aussi un livre qui s'appelle L'arbre à pin, d'une certaine Célestine Itiura-Vaite, ouais. Je sais pas si je prononce bien, qui est un livre sur les rapports entre les hommes et les femmes en Polynésie dans les années 70.
Voilà. Tiens, ah oui, bon. L'arbre à pain, donc. Merci, Antoine. Peut-être que ça vous a ouvert l'appétit.
Bah oui.
Cet atelier numérique est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Les podcasts disponibles, bien sûr, dans les minutes qui viennent. Et on se retrouve, bien évidemment, samedi prochain, entre 16h et 18h sur BFM Business. À très vite.